voilà la manière de la common law, donc en fonction des cas, en fonction de la jurisprudence. Donc les gens qui ont des revendications se payent un avocat, bien les gens, surtout les lobbies, se payent un avocat, ça monte à la Cour suprême, puis là on établit un nouveau précédent qui établit une nouvelle règle ou qui fait évoluer une règle. Donc c'est comme ça qu'on a développé un droit relatif aux religions, aux accommodements religieux, aux ports de signes religieux ou pas. Et là, l'idée, c'est de dire, bon, c'est une façon de faire. Et manifestement, les pays comme nous sont souvent des pays très respectueux des droits de la personne, des grandes démocraties et tout. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est une mauvaise façon de faire, mais comme toutes les façons de faire, comme toutes les traditions juridiques, elle a ses forces, peut-être aussi ses faiblesses. Et là, l'idée, c'est de dire, ben, justement, peut-être que la façon de développer le droit relatif aux religions, en laissant les tribunaux faire le travail, mais en même temps, en laissant derrière les tribunaux les avocats et les lobbies, ben, ce qu'on réalise, c'est que le droit a été aligné de telle manière à ce que c'est beaucoup les employés qui ont eu beaucoup de droits. Donc, les syndicats, parce que les employés, donc les accommodements religieux, c'est beaucoup les employés, là, je vous le disais tantôt, des journées de congés religieux payés et tout. Donc, c'est beaucoup des employés en droit du travail qui ont amené ça, qui ont fait évoluer la doctrine des accommodements religieux. Pourquoi les employés? Parce qu'ils ont des syndicats qui peuvent se payer des avocats. C'est aussi bête que ça. Puis d'un autre côté, les autres qui font beaucoup de revendications, qui se payent des avocats, qui se rendent en Cour suprême, c'est les groupes religieux. Les groupes religieux, ils se rassemblent, sont plusieurs, chacun cotise, ils se payent un avocat ensemble. Alors que face aux syndicats d'employés, les bénéficiaires de services publics, eux autres, ils n'ont pas des gros lobbies. Il existe des commissions, des commissaires, bon, il peut y avoir des associations, mais ça n'a rien à voir avec un syndicat, une cotisation, une formule REM, puis des millions pour se payer des avocats. Donc, il y a comme un déséquilibre entre la puissance des syndicats d'employés versus la relative impuissance des bénéficiaires de services publics. Même chose du côté de la question de la religion plus directement. Donc, les religions sont hyper bien organisées avec des cotisants, des gens qui donnent, c'est volontaire, mais c'est souvent très bien organisé, versus les agnostiques et les athées, pas le lobby le mieux organisé dans notre société. C'est pourtant de plus en plus nombreux, non, mais ils ont leur succès sociologiquement, c'est intéressant, ils sont de plus en plus nombreux, mais ils ne sont pas très bien organisés. Le mouvement laïque et tout, mais on s'entend, là, ça n'a pas la force des religions, ça n'a pas le même capital financier. Donc, ça fait en sorte que le droit évolue autour des religions à partir de liberté de religion, qui est ni pour les employés, ou ni plus pour les employés, ni plus pour les bénéficiaires, qui est ni plus pour les religieux, ni contre les athées. C'est juste un principe abstrait, liberté de religion, de conscience. Mais ensuite, concrètement, les rapports de force dans la société et l'organisation des différents groupes font en sorte que la religion a évolué plus, pas la religion, le droit relatif aux religions a évolué plus dans le sens des intérêts des employés, moins des bénéficiaires de services publics, plus dans le sens des gens qui pratiquent une religion, moins dans le sens des intérêts des agnostiques, des athées ou des croyants non pratiquants. Je pense qu'on peut dire ça sans trop se tromper. Une analyse minimalement sociologique du droit nous permet, je pense, de comprendre pourquoi. Alors, c'est pourquoi le législateur arrive. Le législateur, il dit, ben moi, je suis comme au-dessus de tout ça. Puis, pour aller à la commission parlementaire, oui, ça va être d'avoir des gros lobbies, là, mais en fin de la journée, c'est beaucoup plus facile d'envoyer un mémoire à la commission parlementaire que d'intervenir dans un procès. Donc, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Le processus parlementaire est loin d'être parfait, mais il y a quand même plus d'accès au processus parlementaire à moindre coût que des recours judiciaires qui sont toujours très coûteux. Donc, le législateur dit, nous, on pense qu'on est bien placé pour jeter un regard plus global, plus abstrait, en amont des faits, au-delà de chacune des affaires individuelles, on a un regard dans l'ensemble. Oui, les employés ont des droits, mais les bénéficiaires aussi. Oui, les pratiquants de religion, mais les athées, les agnostiques aussi. Donc, à partir de ce regard plus global, on pose un certain nombre de règles et on fait évoluer le rapport entre liberté de conscience. Peut-être qu'on mise un petit peu plus sur la liberté de conscience, alors que c'était la liberté de religion qui avait beaucoup été plaidée parce qu'il y avait des groupes religieux derrière ça. Et on met l'accent davantage sur la liberté de conscience des bénéficiaires de services publics et pas seulement des employés. Donc c'est un peu ça la logique du législateur, en voulant un petit peu rétablir un équilibre. Ensuite, y avait-il des équilibres avant, ça, à chacun d'en juger, mais c'est un peu l'optique du législateur à ce moment-là. Ensuite, bon, évidemment, ça va se traduire par les règles que vous connaissez, qu'on va apporter dans quelques instants. Mais avant ça, un autre aspect méconnu, en tout cas trop peu connu, de la loi sur la laïcité de l'État, mais qui, à mon avis, est vraiment super intéressant, c'est que, de mémoire à l'article 4, alinéa 2, on consacre un droit fondamental, à mon avis, à des institutions et des services publics laïcs dans la mesure prévue par la loi sur la laïcité et la loi sur la neutralité religieuse. Donc, autrement dit, ce qu'on dit, c'est Il existe une telle chose qu'un droit à des services publics laïcs au Québec, dans la mesure prévue par la loi, et donc, en conséquence, il y a un certain nombre d'interdictions pour les fonctionnaires. Parce que s'il n'y a pas un minimum d'interdiction pour les fonctionnaires de faire étalage de leur religion, puis s'en inspirer dans leur pratique quand ils vous donnent un permis ou quoi, ben là, il n'y a plus de droit à des services publics laïcs. Donc, c'est, et sur cet aspect-là, le législateur s'est inspiré de la loi 101, de la charte de la langue française. Comment fonctionne la loi 101? C'est qu'au début, vous avez vos grands droits linguistiques fondamentaux. Droit de travailler en français, droit des services en français, droit à des biens en français pour les consommateurs, etc. Donc, on a 8 droits linguistiques fondamentaux. Puis tout le reste de la loi, c'est des règles, des interdictions, mais pour assurer le respect des droits linguistiques fondamentaux. C'est, après ça, c'est des organismes, après ça, c'est des recours et des sanctions, mais tout ça pour le respect des droits linguistiques fondamentaux. Et on est un petit peu dans le même genre de logique ici. Donc on dit, il y a un droit à des services publics laïcs dans la mesure prévue par la loi. Là, la loi prévoit un certain nombre d'interdictions pour assurer ce droit-là. Là, parfois, certains disent, ouais, mais non, chronologiquement, l'idée d'interdire les signes religieux est arrivée avant l'idée du droit des services publics, est arrivée même par amendement après le dépôt initial du projet de loi. Donc là, ensuite, on pourrait chipoter et dire que c'est peut-être plus compliqué que ça, mais je pense que c'est à la fin, là, à la de tous les débats, puis ça a été proposé par beaucoup de groupes, ce droit des services publics laïcs, c'est pour ça que c'est arrivé par amendement. À la lumière de tout ça, je pense que ça se tient du fait que c'est inspiré de la loi 101, qui n'est pas la dernière venue des lois au Québec. Je pense que vraiment ça se tient, mais je peux comprendre qu'il peut y avoir des débats. Moi, l'exemple que je donne toujours, c'est imaginez quelqu'un qui va chercher son permis de conduire, puis là, il y a face à lui un fonctionnaire avec le visage couvert, pour des raisons religieuses. Est-ce que vraiment on peut dire que cette personne-là, qui vient chercher son permis de conduire, on respecte son droit à des services publics laïcs? M'apparaît quand même un peu osé comme information. À moins de faire une interprétation vraiment hyper restrictive du droit des services publics laïcs ou de considérer qu'il n'existe pas vraiment un tel droit, comme c'était peut-être le cas, là, je pense, donc, avant la loi sur la laïcité de l'État. Donc ça m'apparaît super important. Et là, d'où l'interdiction du port de signes religieux pour des personnes en autorité, d'où l'interdiction de se couvrir le visage, mais seulement pour les employés du secteur public, défini très, très largement, là, mais l'interdiction de se couvrir le visage, c'est pour les employés du secteur public et non pas pour les bénéficiaires de services publics, contrairement à la loi sur la neutralité religieuse. Donc là, la loi sur la laïcité de la Coalition du Québec va moins loin que la loi des libéraux parce que ça y a eu des problèmes et dans l'application et devant les tribunaux. Donc on dit pour les bénéficiaires de services publics, visage découvert seulement à des fins d'identification ou de sécurité. Donc, si vous avez un étudiant qui arrive à l'examen chez nous, on veut s'assurer que c'est bien l'étudiant, hein, vous en doutez, donc on pourrait demander que la personne se découvre le visage. Donc, c'est essentiellement les deux interdictions qu'il y a dans la loi. Bon, ensuite, il y a plein de dispositions plus techniques de dire que la loi l'emporte sur les conventions collectives, des choses comme ça. Mais l'essentiel de la loi est là, avec en plus, évidemment, ce qu'on appelle maintenant la disposition de souveraineté parlementaire, qu'on appelait autrefois la clause dérogatoire, donc qui est de dire la loi sur la laïcité de l'État est protégée contre des contestations constitutionnelles ou quasi-constitutionnelles qui seraient fondées sur la Charte québécoise des droits ou encore sur la Charte canadienne. Et là, la Charte canadienne, c'est un peu compliqué, c'est seulement ces articles 2 et 7 à 15 qui peuvent servir, qui peuvent être pour lesquels on peut servir de la disposition de souveraineté parlementaire, pour lesquels on peut protéger la loi contre ces articles-là. L'article 2, c'est les grandes libertés fondamentales, dont la liberté de religion. 2, 7 à 15, c'est surtout en matière pénale, mais 15, c'est le droit à l'égalité, donc qui sert aussi super en matière de droit relatif aux religions. Donc l'idée du législateur, c'était de dire les tribunaux ont beaucoup rendu de jugement, ont fait évoluer le droit, puis le législateur s'en inspire beaucoup de l'arrêt mouvement laïque. Il ne s'agit pas de dire que tout ce qu'on fait les tribunaux, c'était pas bon, puis que là, on part à zéro. Non, il y a même du copier-coller, puis vraiment l'arrêt mouvement laïque québécois qu'on s'aligne vraiment au cœur des préoccupations du législateur, qui l'inspire beaucoup, mais à certains égards, on souhaite faire évoluer la jurisprudence, ou en tout cas le droit vers, à certains égards, vers dans une autre direction, d'où le fait de mettre ces dispositions-là pour dire on ne souhaite pas que ce soit contesté. D'autant plus que ce qui est particulier, c'est que, comme c'est un peu une loi de compromis, à mon avis, dans le sens où le projet de loi du Parti québécois allait beaucoup plus loin, la loi des libéraux beaucoup moins loin, bon, le projet de la loi 21 quelque part entre les deux, et en plus, il y a les droits acquis. Donc, c'est-à-dire, on vient dire, bon, on interdit le port de signes religieux, notamment pour les enseignantes, donc allant un petit peu plus loin que le rapport Bouchard-Taylor à cet égard, Et là, on dit, mais on prévoit des droits acquis. Donc, les gens qui étaient déjà en poste en mars 2019, au moment du dépôt du projet de loi, peuvent continuer de porter un signe religieux ou peuvent même commencer à le porter s'ils avaient été à l'emploi de leur employeur, là, de la commission scolaire, avant le dépôt de la loi. Donc, on ne veut pas, sincèrement, on ne veut pas congédier les gens. Donc, il y a comme un compromis qui est trouvé et c'est difficile. Autrement dit, il y a comme un. Si vous permettez de porter des signes religieux de manière très très large, on peut faire l'argument que vous portez atteinte à la liberté de conscience, au droit à l'égalité des gens qui ne partagent pas la religion, comme dans l'arrêt du mouvement laïque. Donc, si un fonctionnaire pratique sa religion, le représentant de l'État, quelqu'un peut s'en plaindre, il y a un problème de liberté de religion. Mais au contraire, si vous interdisez toutes les pratiques, tous les signes religieux de tous les fonctionnaires, il y a peut-être un argument à faire, selon certains, que ça porte atteinte au libre exercice. Donc, dans tous les cas, n'importe quoi, que vous fassiez rien, que vous fassiez quelque chose, peu importe ce que vous faites, il y a un risque de contestation constitutionnelle. Donc, il n'y a pas de, une position qui respecte les droits et une autre position qui ne respecte pas les droits. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est des droits qui s'affrontent, qui sont en tension. Donc, le législateur, lui, a décidé que c'était ça le compromis. Donc, interdiction d'usage couvert, mais seulement pour les employés du secteur privé, pas pour les bénéficiaires, sauf sécurité et identité. Et pour le port du signe religieux, ça interdit, mais seulement pour les gens en position avec un pouvoir coercitif et les enseignants qui peuvent être rentrés dans cette catégorie-là, pas pour les autres, et il y a des droits acquis. Vous voyez, c'est un compromis, on peut trouver que c'est totalement imparfait, on peut trouver que c'est génial, mais le compromis est là. Puis à la limite, pour les groupes qui défendent la laïcité, les droits acquis, ça porte atteinte à la liberté de conscience, là, puis c'est limite un peu scandaleux. Et pour les gens qui défendent une autre conception de la laïcité, qui défendent des minorités ou le multiculturalisme ou quoi, pour eux, c'est absolument scandaleux l'interdiction du port de signes religieux. Mais le législateur a fait soit le tracé de ligne un peu au milieu de tout ça, peut-être plus du côté des groupes de défense de la laïcité, là, qui sont ceux qui ont appuyé la loi, même s'ils n'étaient pas d'accord avec tout. Mais mon point, c'est que donc, ce serait pas impossible qu'un tribunal dise bien, vous avez raison, la ligne est exactement là. Avec vos droits acquis, vous ne portez pas atteinte à la liberté de conscience des bénéficiaires des services publics. Avec votre interdiction de port de signes religieux, vous ne portez pas atteinte à la liberté de religion des fonctionnaires. Vous avez trouvé exactement la ligne, exactement là où vous l'avez trouvé. Ça se peut que les tribunaux disent ça, mais c'est quand même pas si évident, parce que si on en voit un petit peu trop d'un bord, un petit peu trop de l'autre, si on a une interprétation un peu différente, on conclut que soit les droits acquis, soit l'interdiction est invalide constitutionnellement, porte atteinte à une liberté. Bon, évidemment, des fois, les tribunaux disent, bon, ben, c'est raisonnable, c'est peut-être pas l'interprétation. Oui, ils peuvent dire que ça porte atteinte à un droit, mais c'est raisonnable dans une société libre et démocratique. Là, il y aurait des façons pour les tribunaux de ne pas être 100% d'accord, mais de ne pas invalider la loi. Mais historiquement, c'est pas toujours la déférence, comme on dit, là, qui est exercée par les tribunaux en matière de droits relatifs aux religions. Donc, le législateur n'a pas voulu prendre de chance. Et ce qu'on réalise à ce moment-là, lorsque la loi est contestée, c'est que le premier juge en cour supérieure, effectivement, était plutôt hostile à la loi. Chaque fois qu'il y avait un témoin qui était favorable à la loi, donc souvent c'était les musulmans qui venaient dire « on veut être protégé contre les pressions religieuses, on est pour la loi », ben le juge il avait des questions assez sévères qui étaient plutôt un peu plus sévères envers ces témoins-là. Alors, quand c'était les témoins qui disaient « nous, on veut porter notre signe religieux à l'école, c'est important », le juge était plus complaisant. Donc, on a vu en partant que le juge était pas très favorable à la loi, mais il a quand même respecté la disposition de souveraineté parlementaire. Il a dit, bon, ben, voilà, la loi est là, donc la disposition de souveraineté parlementaire est là, on ne peut pas invalider la loi, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris tous les droits qui ne sont pas visés par la disposition de souveraineté parlementaire, comme le droit des anglophones de gérer leurs propres écoles. Là, il a dit, ce droit-là des anglophones de gérer leurs écoles, ça inclut le droit de ne pas appliquer des lois québécoises, comme la loi sur la laïcité. Donc, il est allé très, très loin. Donc, ce qu'il a fait, plutôt que de faire sauter la disposition de souveraineté parlementaire, il a pris les droits qui ne sont pas visés par cette disposition, puis il en a fait des interprétations extrêmement larges pour invalider en partie la loi. Et j'achève très bientôt. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le droit de se présenter aux élections. Donc le juge a jugé que le fait d'interdire aux députés de l'Assemblée nationale de se couvrir le visage, ça porte atteinte au droit de se présenter aux élections. Donc si quelqu'un veut se présenter aux élections, mais qu'il veut avoir le visage couvert, ça porte atteinte à son droit. Et là, ça a été renversé en cour d'appel, vous l'avez vu il y a quelques semaines. Donc, la cour d'appel a jugé que la loi était applicable aux commissions scolaires anglophones. Donc, le droit de gestion des anglophones sur leur école, c'est pour des motifs linguistiques et non pas culturels au sens large. Donc, ça a été une victoire. Mais sur la question des députés à visage couvert, ça, c'est toujours, ça a été invalidé donc, par la cour d'appel, parce que ça s'en va possiblement en cour suprême. Rapidement, je vais finir là-dessus. Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que la loi sur la laïcité, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été arrêtées après, j'y vais en rafale. Un décret qui a été adopté pour que, lors des cérémonies officielles de l'État québécois, les représentants du clergé ne soient plus invités. Avant, ils étaient très très hauts. Il y avait genre premier ministre, lieutenant-gouverneur, puis l'évêque qui était là jusqu'en 2019. Donc là, on tasse les représentants du clergé. Ensuite, on enlève le crucifix de l'Assemblée nationale, on enlève le crucifix des palais de justice. Ensuite, le cours d'éthique et culture religieuse, qui est un cours où il était beaucoup question de religion dans les écoles, là, on le remplace par un cours de culture citoyenneté québécoise, où il est moins question de religion. Quand on disait religion, c'était beaucoup de christianisme, forcément, parce que c'était un cours quand même qui était par rapport à l'histoire et tout. Donc, on remplace ça, moins de religion à l'école, et les salles de prière. Donc, récemment, l'année passée, il y a eu une controverse autour de salles de prière dans les écoles dans le coin de Montréal. Il y a une directive qui a été adoptée, et c'est en trois ans sur la loi sur la laïcité de l'État. Ce qui est intéressant avec ces exemples-là, c'est qu'on voit que c'est, la loi sur la laïcité de l'État, ce n'est pas juste l'interdiction de port de signes religieux. Il y a plein d'autres choses qui en ont découlé. Puis ces autres choses-là qui en ont découlé, souvent, ça concernait le christianisme, parfois d'autres religions aussi. Mais donc, ce n'est pas que toutes les mesures qui découlent de la loi sur la laïcité, c'est toujours contre l'islam. Hein? C'est un peu l'argument qu'on fait. À mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sera sans doute, si ça sera en Cour suprême, ce sera un des arguments qui sera plaidé. On verra ce que la Cour suprême va en penser, puis je reviendrai vous en parler. Merci. 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 J'ai dépassé mon temps. Je voulais vous en dire. C'est pas grave.
Il est correct.
Est-ce qu'on m'entend?
Oui.
Vous m'entendez? Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. J'ai beaucoup aimé la présentation parce que il y a des éléments historiques. Tu nous l'as remonté dans le temps. Et là, je me suis posé la question, moi qui ai été au pensionnaire, au pensionnat chez les Sœurs de la Providence, et que par après, j'ai fait mon cours classique au Collège de Montréal avec les Sulpiciens. Je pense que sur certains points, en t'écoutant, ils auraient hésité. Hein? Mais ça, c'est une autre affaire. Mais j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect politique en voyant les groupes, les lobbies. Le groupe des syndicats, le groupe de certaines causes aussi, qui de manière très précise ont fait évoluer le dossier. C'était très clair. Et on peut dire de toi là, que t'es volubile.
Tu parles moins vite qu'avant, mais encore un peu plus vite.
et vous l'avez pas vu, moi j'étais placé à un endroit où on voyait qu'il y a très peu de feuilles. Hein? Donc il n'a pas lu un long discours, au contraire. On voit qu'il maîtrise totalement le dossier et qu'il y a une passion, une foi, une connaissance de ces dossiers-là qui est très, très forte. On arrive à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vois la première main se lever.
Moi, je voudrais profiter de ta présence. Ça n'a pas l'air de marcher, ça, mais oui. Je vais parler assez fort. Alors, j'aimerais profiter de la... Comme ça? Oui.
Dans la
non, même quand on a des habitudes.
Alors,
moi, j'aimerais profiter de la présence de Guillaume pour avoir son point de vue sur deux enjeux qui ont trait à nos partis politiques au Québec. D'abord, j'ai de la difficulté, moi, à saisir. La première parti politique, c'est Québec solidaire, le deuxième, c'est le Parti québécois. J'ai de la difficulté à saisir le point de vue de Québec solidaire sur les enjeux de laïcité. Des fois, ils sont d'un côté, des fois, ils sont de l'autre. Qu'est-ce qui caractérise fondamentalement le point de vue de Québec solidaire sur la laïcité? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est en lien avec le Parti québécois. On a depuis quelque temps Paul Saint-Pierre Plamondon qui contribue à ce qu'il y ait une montée de la ferveur indépendantiste. Qu'est-ce qui serait différent si le Québec était indépendant en ce qui concerne les enjeux de laïcité? Est-ce que c'est clair?
Oui, c'est très clair. Donc, merci pour les questions. Donc, au niveau de Québec solidaire, effectivement, c'est assez particulier parce qu'à l'élection de 2018, qui a porté, entre autres, là, sur les questions entourant la laïcité, puis qui a mené la coalition de Québec à promettre la loi et tout, la position de Québec solidaire, c'était à ce moment-là essentiellement la même que le rapport Bouchard Taylor, donc pour une loi sur la laïcité, pour l'interdiction du port de signes religieux pour les représentants d'État, les fonctionnaires avec des positions d'autorité, de coercition, mais pas les enseignants de mémoire. C'était vraiment le rapport Richard Taylor là, à la lettre. Et là, au lendemain d'élection, vraiment pas longtemps après, là, genre, je ne sais pas si c'était novembre 2018 ou janvier 2019, là, mais vraiment pas longtemps après l'élection, ils font un débat à l'interne et là, ils changent de position. Là, ils décident qu'ils sont contre toute forme d'interdiction du port de signes religieux. Alors, ce qui n'est jamais l'idéal quand on dit une chose en élection et qu'on fait le contraire une fois élu. Bon, c'est moins grave quand on est dans l'opposition, mais quand même. Et ça, c'est la première des choses. Fait que là, comment l'expliquer? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment plus largement, il y a une partie de la gauche au Québec qui n'est pas alignée sur les questions de laïcité, qui a une autre vision, qui est beaucoup dans la défense des minorités. Mais là encore, moi, c'est un argument que j'achète juste à moitié parce que on l'a vu au procès. Donc, il y a plein de gens de minorités qui vont être pour la loi sur la laïcité. En fait, les plus intenses en défense de la loi sur la laïcité, souvent, c'est des musulmans laïcs. Qui disent, nous, on ne veut pas que nos enfants soient soumis à des pressions, obligés de jeûner par leurs confrères d'école ou quoi. Bon, donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, je pense qu'il y a une partie de la gauche qui peut défendre sincèrement les minorités, mais ensuite, peut-être que c'est un peu simple comme raisonnement. Et donc, il y a ça. Il y a le fait que c'est un parti très influencé, peut-être, par qui est plus une base électorale, même si on dit que c'est beaucoup à Montréal, les militants. Bon, puis là encore à Montréal, bon, il y aurait plein de nuances à faire, il y a beaucoup de militants laïcs, il y a des gens des minorités religieuses qui sont pour la laïcité, d'autres comptes et tout, mais peut-être que ça aussi, je pense que si on regardait les sondages, il y a peut-être plus d'appui à la loi sur la laïcité de l'État en région, mais c'est essentiellement la langue qui est déterminant, plus qu'un déterminant géographique, mais quand même. Donc voilà, donc tout ça mis ensemble fait que Québec solidaire a évolué, puis c'est une évolution aussi qui touche plusieurs parties de gauche.